Hey les gars, j'ai une blague pour l'intro. Il paraît que les mecs qui sont allés voir Civil War, en fait, ils ont vu que toutes les mamans des super-héros ont le même prénom. C'est cool comme blague, non?
Ah, c'est pas mal, ouais. J'aime bien. Ouais.
Pas drôle.
Ah, ok. Bon, ok.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors?
On peut lancer l'émission, peut-être?
Je sais pas.
Je peux le laisser tourner encore ou pas?
Je sais pas.
Je veux dire, parce que ça peut devenir
encore plus malaise.
C'était pas ça la blague. 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 C'est juste que les mecs ils ont pas suivi du tout.
Ah bah j'ai pas suivi.
Mais ok.
Oui, en fait, c'est pour ça que je suis regardé, j'ai kiffé.
La blague, c'est un. The Batmobile.
Let's go. Mais oui, mais j'ai une écoute. Mais
non. C'est ça?
Non. C'est le chien. Oh, c'est dommage.
Ok.
Oui.
Je pensais pas
ouais, qu'à faire ça. Alors le truc c'est que Joe et moi vous êtes trollés, on voulait lancer le générique. Ben, parce que comme ils ont pas de micro, ouais. Ils ont pas entendu. Bon tant mieux.
On lance là. Okay. J'ai rien compris.
Bonjour à tous et soyez. C'est donc le bouillard le plus long du monde, hein. Ouais. Voilà.
Comme là.
Soyez les bienvenus dans cette 44e épisode de Comics Outcast, l'émission Radio Kawa qui pendant une heure vous parle de comics et de ses univers. Autour de la table du studio B de WeFM, il y a Gaylor.
Bonsoir.
Il y a Zef.
Hey, bonsoir.
Et on accueille un nouveau chroniqueur que vous avez pu entendre il y a deux semaines dans le super débat Batman v Superman, c'est Grégo.
Bonsoir.
Bienvenue. Ouais. Comment ça?
J'ai une question tout de suite, je constate aussi qu'il y a des bières autour de cette table.
Oui.
Mais en revanche, pas du tout dans ma main.
Oh mais on a proposé.
C'est parce que tu t'es assis dessus en fait.
Ah mais attends. Ah.
Vous venez de l'entendre, c'est Joe, notre réalisateur chéri adoré, notre réalisateur préféré j'ai envie de dire, hein, qui nous ouvre les portes du studio de WeFM.
Et nous on pue du cul.
Oui. Vous n'êtes pas là. Moi je suis Eric, votre animateur, et on va vous emmener dans plein d'endroits aujourd'hui. Le programme. Oui, on va explorer.
On par la main.
Voilà. On va explorer plein de choses différentes. Dans la première review, on va explorer la recherche de soi et comment redevenir un bon humain après avoir été un assassin toute sa vie dans Bloodshot Reborn. On va explorer le cosmos avec un symbiote dans Venom Space Knight. Et enfin, on va explorer la friend zone dans We Can Never Go Home. En deuxième partie d'émission, on va parler ensemble de iZombie dans le Focus. On en a déjà parlé de la série télé, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Là, on va vraiment parler du comics à proprement parler, et dans la dernière partie hors les bulles, on va parler du dessin animé Justice League vs Teen Titans, et c'était long. Vous pouvez interagir avec nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux qui existent et sur lesquels on n'est pas sûrement Pinterest, hein, je sais pas, on va demander à Adrien, grâce au hashtag Comics Outcast ou sur le site Radio Kawa sur lequel vous pouvez nous laisser des commentaires. Comics Outcast numéro 44, c'est parti.
To the Batmobile, let's go.
C'était collégial, c'était beau, c'était magnifique. On va commencer donc la revue avec, avec la revue de Bloodshot Reborn. Il s'agit d'un comics d'un éditeur dont on parle pas très souvent, c'est Valiant. On a fait une revue sur un titre qui s'appelle, j'ai oublié,
The Valiant,
voilà, excusez-moi.
C'était même un focus, toute
la maison. Et d'ailleurs, Gaylor va reprendre le flambeau hein, de ce qu'il avait laissé tomber il y a 6-7 mois en parlant d'une série qui en est directement tirée.
Ah bah c'est la suite directe en fait. C'est-à-dire si t'as pas lu The Valiant, bon tu pars pas avec un défaut majeur, mais bon c'est resitué dans les premières cases. Bref, on est parlé de Valiant. Ouais, c'est un éditeur qui est pas très connu. J'avais fait un focus sur The Valiant, j'avais un peu retracé l'histoire de cette maison d'édition qui avait connu plusieurs reboots. Le plus récent c'était celui en 2012 justement avec cette série Valiant. C'était en 2014. Ils avaient fait un reboot et leur relaunch. En fait, ils ont fait un reboot en 2012, on en refait un en 2014, et ils avaient mis Jeff Lemire aux commandes. Et donc à la suite de cette série en 4 chapitres, bon, je retrace vite fait le synopsis. En fait, il y a une espèce de geomancer qui est censé être protecteur de la Terre en fait, qui est réincarné tous les, je sais pas, 2000, 3000 ans. Ouais. Et il y a l'Eternal Warrior, le guerrier éternel, qui le protège, qui est censé, qui est en vie depuis 10 000 ans, qui connaît toutes les techniques des arts martiaux, qui sait maîtriser toutes les armes, enfin en gros le guerrier ultime. Le seul défaut, c'est qu'il n'arrive pas à protéger son géomancer. Il crève toujours face à la mort, cette espèce d'entité donc, qui ressuscite très régulièrement dans cet univers. Et The Valiant, justement, retraçait l'histoire de cette quatrième résurrection et de ce quatrième fail, en fait, d'Eternal Warrior. Donc ça finit comme ça. Et il y a pas mal de changements de statu quo pour pas mal de personnages de l'univers Valiant, dont Bloodshot, qui, en fait, lui, perd son pouvoir carrément, enfin, perd son, comment dire, ses nanites, parce que son pouvoir principal, c'est en fait... En fait, c'est un mix entre le Punisher et Wolverine, on va dire. Punisher, d'accord, pour le côté, j'ai des gros guns, je tire sur tout ce qui bouge et je fais ma loi. Enfin, plus ou moins, parce qu'il est un petit peu, on va dire, téléguidé par un gouvernement un peu, enfin, par une...
Dans l'ombre.
Voilà, pas par le gouvernement officiellement, mais par une succursale du gouvernement.
Et, corporation secrète.
Voilà, c'est ça. Et... Bloodshot, donc il y a ce côté-là, Punisher, le côté Wolverine, c'est que du coup, tu peux le... Bah, tu peux lui mettre une grosse balle de shotgun dans la gueule, la case d'après, sa tête réapparaît, enfin il a un facteur d'auto-guérison encore plus efficace que celui de Wolverine, et c'est ce qui en faisait une machine à tuer imparable. Il est né d'ailleurs dans les années 90, en 1992, dans une période où bah, c'était la mode de faire des personnages très très violents, et justement bah, c'était... Voilà, il avait sa place. Et dans cette réinterprétation de Jeff Lemire, c'est pas du tout ça en fait. Jeff Lemire se réapproprie le personnage et en fait un truc complètement différent. Comme je le disais, Bloodshot a perdu ses pouvoirs à la fin de The Valiant. On retrace en quelques pages au début ce qui s'est passé dans The Valiant. Et commence en fait cette histoire où tu te dis, bon bah ok, il a plus de pouvoir, il a plus rien, qu'est-ce qu'il devient?
Est-ce qu'il essaie de revenir humain ordinaire
Voilà, humain ordinaire plus ou moins. Parce qu'en fait, le mec a complètement sombré, en fait. Il a complètement sombré, c'est d'une tristesse. Enfin, c'est Jeff Lemire aux commandes, on en a déjà parlé ici avec Sweet Tooth. Ouais. Enfin, ça m'a rappelé Sweet Tooth dans l'ambiance, c'est ultra dépressif. Le mec, en fait, pour resituer vite fait l'action, en fait, il s'appelle... Il a toujours gardé son alias, Jay Garrison, je crois. Et en fait, il traîne dans un espèce de motel miteux. Vous savez, ces motels qu'on voit souvent dans les séries américaines où il y a des
cafards, avec la clim.
Ouais, voilà, ouais. Tu as pité des enfilades de chambres d'hôtel avec une piscine pourrie tout en bas dans laquelle personne ne vient se baigner. Et il s'occupe en fait de cette... il est devenu concierge d'un motel de merde, en fait, tout simplement. Et le jour, il fait ça, et la nuit, il reste dans sa chambre, il se drogue, il boit.
Les scènes comme ça sont juste géniales.
Il est très très fort, Jeff Lemire, pour décrire ça. Et il part dans l'espèce de monologue. Il a à côté de lui son dossier secret dans lequel il y a toute sa vie. Il pourrait l'ouvrir et apprendre plus sur son passé, mais il est complètement torturé par...
En fait, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant sa transformation, c'est ça ?
C'est ça, en fait. Le truc, c'est que il a subi tellement d'expériences, un peu à la Wolverine, il a subi tellement d'expériences, il est tellement gorgé de rage, de haine, et complètement, constamment guéri et auto-régénéré par ses nanites, donc aussi bien au niveau du physique que psychique,
ouais.
Que, en fait, voilà, c'est devenu une machine à tuer. Et quand tu enlèves... tous ces attributs de machine à tuer à un homme qui ne sait plus qui il est, là tu as un espèce de mec qui passe son temps à sniffer de la coke, à boire du whisky et à manger des barres chocolatées. C'est vraiment exactement ce qu'il fait en regardant la télé dans une pièce complètement éteinte. C'est absolument génial. Et je voulais dire que voilà, en fait, c'est l'histoire de ce mec qui est tellement triste qu'en fait du coup il entend des voix, on sait pas trop en fait. Au début, il est tellement au-delà de la folie en fait qu'il voit par exemple, la fille qu'on voit, le quatrième Geomancer qu'on voit dans The Valiant, elle apparaît en chair et en os, mais c'est une hallucination très très tangible.
Très proche de la réalité. Voilà. Il se demande s'il devient fou ou si, enfin, s'il est encore
si elle a
plus
ressuscité,
fou que
parce que...
Tu veux dire comme Flash dans Batman vs Superman ?
Oh mon dieu, ça y est, on atteint le point.
Comme Mar.
Eh non, mais tu plaisantes, la fille s'appelle... Non, je te vois.
Ce serait fort, ça.
Ah, putain, ce serait horrible. Et le petit bonus à Jeff Lemire, c'est qu'il est habité par ce personnage féminin qui entre, qui lui dit « Allez, vas-y, tu redeviens Bloodshot, tu vas voir, c'est super, c'est génial. » Et aussi par un espèce de petit...
Il est trop fort.
Un petit, comment dire, un rejeton un peu à la Robin, qui s'appelle Bloodquirt. Qui est son alias, son espèce de Robin, mais Robin démoniaque en fait.
Moi je le voyais plus comme un Batmeet, mais...
Comme un Batmeet, ouais. En fait, je sais pas si t'as lu au-delà du 3, mais à partir du 5, c'est lui qui prend complètement possession du... Enfin pas de l'esprit du personnage, mais vraiment de l'espace de tout le comics en fait. Et il part tellement dans son hallucination qu'il s'imagine une Blood Cave avec une Blood Mobile, avec un Blood Dog, c'est un peu comme Superman. Et... C'est absolument fou, quoi.
Et en gros, c'est un peu genre, tu sais, l'ange et le démon sur l'épaule de la personne en
qui représente la bonne conscience,
les bonnes actions. Ouais, d'accord. C'est les deux le poussent à faire du vice, quoi.
Et dans ce contexte de joie, de joie de vivre, de gaieté et de joie de vivre, il apprend que il y a un bloodshot qui est revenu, en fait. C'est pas lui, mais en fait, à la fin de The Valiant, quand les nanites s'évaporent dans les airs, et ben en fait, elles sont retombées sur d'autres hôtes, en fait.
Comme une pluie d'acide.
Et lui voit ça à la télé. En fait, il découvre ça un peu comme quand tu découvres que tel connard a fait une tuerie dans un collège, a tué 13 personnes, et sauf que ce mec-là, c'est un bloodshot avec le rond rouge sur la poitrine, livide, avec les yeux injectés de sang.
Le truc qu'il identifie vraiment.
Voilà, donc déjà, il n'arrive pas à trouver le repos. Il se dit, bon, enfin normalement, la fille qui lui a enlevé ce pouvoir-là lui l'a fait pour une bonne raison, pour qu'il devienne un homme et qu'il vive enfin sa vie à lui. Sauf qu'il n'y arrive pas, et en plus il voit qu'il est en quelque sorte responsable de ça, parce que son pouvoir n'est pas parti, il est juste parti, enfin il s'est juste divisé en plein de petites entités qui habitent d'autres personnes qui sont du coup beaucoup moins fiables, on va dire, mentalement parlant. Et qui se mettent à faire des conneries avec ces pouvoirs-là. Et le but de Bloodshot, justement, ça va être de parcourir un petit peu les États-Unis et de retrouver ces mecs-là et de, à contre-cœur, en fait, de réabsorber leur pouvoir. Et là, le titre porte bien son nom, Bloodshot Reborn, de redevenir Bloodshot malgré lui. Et c'est une espèce de relation assez bizarre parce que il ne veut pas redevenir Bloodshot, mais en même temps, il n'a pas le choix, sinon, c'est la merde, quoi. Hein. Tout le monde se tue. Et...
En gros, c'est la seule personne qui avait un semblant de contrôle sur les nanites.
C'est ça.
Sauf que dans les mains d'autres personnes, enfin, dans le corps d'autres personnes, ça crée des catastrophes. Et,
C'est ça, en fait. C'est l'histoire de Bloodshot contre plein d'autres méchants Bloodshot.
D'accord.
Et Jeff Lemire s'approprie complètement le personnage. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment un personnage sanguinaire, une espèce de punisher qui à la solde du gouvernement. Et Jeff Lemire, enfin un personnage très très dépressif. Moi j'ai adoré, je ne l'avais pas encore dit, mais je pense que vous l'aviez compris. C'est vraiment une lecture que... Enfin, c'est vraiment la suite directe de The Valiant, un univers que je ne connaissais pas et j'ai envie de m'approprier de plus en plus. Et Bloodshot, Bloodshot Reborn, c'est la continuité de cet event et je le recommande, vraiment.
On va passer la parole à Zef. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Moi j'ai kiffé, j'ai tout kiffé. J'ai pas lu The Valiant, mais déjà le principe de base, le type de héros ultra anti-charismatique, tout ce que tu veux, ultra badass, moi, donc c'est le genre de personnage qui plaît forcément. Et l'ambiance, après c'est un peu trop facile, quoi. C'est Jeff Lemire, donc c'est un peu relou, mais l'ambiance est juste parfaite, quoi. Du début à la fin, de la première case jusqu'à la dernière, à chaque fois, c'est noir, c'est très sombre. T'as envie de ça, en fait. T'as envie de te plonger dedans, t'as envie de te plonger à côté du gars, t'as envie de le voir sniffer les trucs, t'as envie d'avancer avec lui. Et finalement, quand tu vois ces autres alter ego apparaître, ouais, même leur apparition est vraiment différente, en fait. C'est-à-dire que t'as même le petit gars, en fait, il est dessiné complètement différemment. Il est très pop en couleur parce que t'as l'impression qu'il sort du jeu vidéo. Et parce qu'il sort d'un jeu vidéo, concrètement.
Et oui, ça, oui,
même la nana qui apparaît, en fait, t'as l'impression qu'elle est encore différente par rapport en termes de dessin et en termes de design. Donc il y a tout un, voilà, l'univers est posé et puis le pitch, même s'il paraît un peu simpliste de base, enfin ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne parce que il y a un mec qui sait écrire aux commandes et que bon, il sait te mener par le bout du nez ou là où il veut. Moi j'ai juste ultra kiffé. Voilà,
Est-ce que t'as lu jusqu'au bout cette histoire de Bloodshot, justement, qui pourchasse? Enfin, est-ce que t'as vu le dernier Bloodshot qui est?
Non.
Tu vas kiffer.
D'accord. Mais en fait, je vais reprendre The Valiant du coup du début et je vais enchaîner la suite pour reprendre tout ça.
Grégo, pour ta première intervention, ta première revue, qu'as-tu pensé de Bloodshot Reborn ?
Oui, bonsoir. J'ai dit bonsoir déjà.
Non, bonsoir.
Bonsoir. Donc okay. Moi, j'ai abordé Bloodshot, sans du tout connaître l'univers. Pour tout dire, j'avais même jamais entendu parler de ce personnage. J'ai trouvé ça extrêmement bien introduit, à tel point que je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est un nouveau personnage ou est-ce que c'était quelque chose d'existant ? Donc on peut tout à fait se plonger dans l'histoire sans avoir tout le background. Comme disait Zef, c'est très très sombre, très morbide, très glauque. Et c'est superbement bien aidé par le dessin aussi. J'ai trouvé vraiment super par rapport à l'ambiance, quoi. Un ancrage très fort, très noir. Ça appuie vraiment le contexte. Aussi, on pourrait s'attendre, quand on voit le personnage, à pas mal d'action, parce qu'apparemment il m'a l'air assez bourrin. Et finalement, sur les trois issues que j'ai lues, y a peu d'action à proprement parler, mais ça se dévore malgré tout, quoi. On a vraiment envie de lire, on a vraiment envie de savoir la suite. Donc pour moi, oui, c'est une grosse réussite et je pense que je continuerai à lire les issues.
Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé en fait. Vous parliez du petit personnage un peu funky qui justement son démon et qui est là pour lui le pousser à faire encore plus de conneries et à vraiment redevenir le shot. C'est qu'il est dessiné d'une façon totalement différente et il sort
C'est marrant parce que je l'ai dit, c'est comme les blagues en fait, tu m'écoutes pas.
Non. Alors on va donc passer à la suite. Donc c'est donc une série Valiant. Merci pour ces revues.
J'aimerais ajouter un dernier mot sur Valiant, enfin sur l'univers Valiant, sur The Valiant et sur Bloodshot Reborn. C'est deux comics qui vont être qui dans les jours qui viennent vont être édités en français par une maison d'édition, une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Beast Comics. Et vous les connaissez peut-être, Beast Comics, parce que ce sont nos, je sais pas ce qu'on peut dire, collègues, confrères de chez Comics. C'est quoi le podcast, Comic City?
Je ne connais pas.
Bah si, tu le connais ce podcast.
Ah bon?
Oui, si. Adrien les connaît.
Apparemment.
Ah oui,
c'est eux. C'est eux qui éditent en fait en France l'univers Valiant.
D'accord.
Voilà.
On va faire un lien. Voilà.
Ah mais ils vont pouvoir nous envoyer des trucs alors. Ah putain, c'est cool.
On va passer la deuxième revue de cette semaine. On part donc dans l'espace avec Venom Space Knight, une série donc Marvel Comics naturellement, qui a commencé en novembre 2015, écrite par un certain Robbie Thompson et illustrée par un certain Ariel Olivetti. Et c'est Grégo qui va nous en parler.
Tout à fait. Venom Space Knight. Donc si comme moi vous avez un peu lâché Marvel depuis à peu près 15 ans.
Oh merde, qu'est-ce qu'il y a dans cette émission?
Il va falloir vous faire une petite mise à jour par rapport au personnage de Venom. Donc on n'est plus du tout dans le Venom de départ qui était Eddie Brock. Le Venom un peu classique qu'on retrouve dans toutes les histoires de Spider-Man. Mais aujourd'hui Venom est devenu Flash Thompson. Donc si vous vous souvenez, c'est ce Bully qui harcelait Peter Parker au lycée. Je me demande si t'es pas capitaine de l'équipe de
football.
Bah, tous les coups, oui.
Le cliché, le fameux cliché.
Le jock imbécile est juste plus fort que les autres, quoi.
Donc avant de se plonger dans l'histoire, il peut être intéressant de faire un petit point sur ce Flash. Alors on peut savoir qu'il a perdu ses deux jambes à la guerre, était recruté par le gouvernement pour être associé au symbiote. Le gouvernement apparemment avait récupéré le symbiote de Eddie Brock. Il a été intégré dans l'équipe des Secret Avengers, puis intégré au Guardians of the Galaxy, d'où sa présence un peu au fin fond de l'espace. Et il faut savoir qu'au cours de ses aventures avec les Guardians, son symbiote a été purifié sur la planète d'origine des symbiotes. Donc apparemment, maintenant, ce serait un gentil symbiote.
Ouais, c'est de la merde.
Ouais, ça porte à débat.
Bref.
Non,
c'est de la merde le truc dont vous parlez là, ou Agent Venom en général?
Je me prononcerai pour la deuxième partie, mais le retcon, l'histoire du symbiote qui devient super sympa, machin et tout, c'est de la merde. C'est mon avis, c'est un bagage que moi. Hein.
Mais moi, le souvenir que j'ai de Agent Venom par Remender, le symbiote n'était pas de sympa. Hein.
Non, mais c'est non. On va laisser finir.
En tout cas, il aurait été purifié. Alors, d'accord. En prenant l'histoire de Space Knight, c'est un peu ce que j'ai compris et ça va pas forcément plus loin. En tout cas, dans les trois premiers issues. Donc, petit rappel sur le pouvoir de Venom quand même, c'est en quelque sorte un gogo gadget au symbiote qui lui permet de sortir au choix des objets tranchants, une bâche pour s'abriter,
oui, un parapluie géant,
un human air bubble. Alors je me suis renseigné sur internet, c'est ces bulles dans lesquelles on peut s'enfermer pour glisser dans les champs ou sur l'eau.
Putain, défense.
Oui, c'est vrai, il fait ça un moment. Ouais.
Alors je vous invite à lire pour découvrir à quel moment ceci se produit. Alors, l'issue 1... Tout commence sur une planète indéterminée où en fait Venom, on est en plein cœur de l'action, court après une arme chimique qui serait un YT-19. Alors pourquoi court-il après cette arme? C'est parce que des voix lui ont demandé dans sa tête. Apparemment ça c'est quelque chose d'assez nouveau dans le personnage. Il sait aussi, alors il nous explique un petit peu, hein, il nous parle, qu'il est agent du cosmos. Alors ça a l'air nouveau aussi. Il a aucune idée de ce que c'est, mais il sait qu'il en est un. Ce qui est assez bizarre, c'est que beaucoup d'autres personnes ont l'air d'être trop courants aussi de l'existence d'agents du cosmos, mais aucun n'est capable de lui expliquer vraiment ce que c'est.
Donc, ou alors il se passe un truc avant qu'il puisse le révéler.
Ou alors voilà, ouais. Donc on imagine, enfin moi j'ai pensé des sortes de hipsters de l'espace au début où personne ne peut exactement dire ce que c'est. Et voilà, ça c'est le pitch un peu de l'issue 1. Je vais pas révéler davantage la petite intrigue.
On va pas spoiler,
avec
ouais.
le petit mince, je le trouve plus mes mots. Twist. Voilà, merci. dans les issues suivantes, donc l'univers va un peu plus se poser, l'univers de Venom Space Knight. On va le voir notamment faire équipe avec le robot dont Gaylord parlait, qui s'appelle 803, qui est plus ou moins un plagiat éhonté de Marvin du Guide du Retard Galactique, à savoir un robot complètement dépressif. Ouais. Du coup, il aura quelques bonnes vannes de ci, de là. Il récupère aussi un vaisseau suréquipé qui lui permet de faire à peu près tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Voilà, chaque issue a un arc narratif propre, et puis qui le relie à l'arc principal, qui semble être lié justement à pourquoi Venom entend ses voix dans sa tête. Niveau action, dans chaque... Il y a quelques petits défauts au niveau de la narration, j'ai trouvé, notamment souvent, il y a des ellipses, donc il se passe quelque chose, et l'image d'après, l'action est plus ou moins résolue, on ne sait pas trop comment. Alors il s'échappe de la planète, ensuite il s'échappe d'un vaisseau, il y a des petits défauts à ce niveau-là.
C'est très décousu, quoi.
Voilà, c'est décousu. L'univers, on trouve un univers à mi-chemin entre un univers un peu pulp et peut-être une petite dose de Star Wars, avec des extraterrestres très exotiques, notamment une femme chouette rose qui m'a particulièrement traumatisé. Voilà, je suis complètement sorti de ma zone de confort des personnages féminins avec elle. Donc elle apparaît trois images, mais je pense qu'elle a marqué tout le monde.
Elle te fait pas penser aux pubs Orangina, là ?
Complètement, là, je voulais faire le parallèle. Ils ont sexualisé une chouette, c'est assez malsain. Peut-être elle aura le droit
avec à un spin-off. Des bons gros boobs.
Exactement, bien salé, une poitrine proéminente. Enfin bref.
Ah non.
C'est pas forcément évident à
aïe, 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 aïe.
Voilà.
Hein. Elle s'appelle Martha.
Oh oui.
Globalement, donc...
C'est con parce que...
Globalement, donc peu d'originalité j'ai trouvé dans l'univers. C'est du space op un peu classique. Là où j'ai trouvé que vraiment que la série était intéressante, c'était au niveau des dessins. Avec notamment Ariel Olivetti qui me semble être à la fois dessin et à la couleur. C'est vraiment assez fou le travail qu'il a réalisé. À tel point que je me demande. Enfin, j'ai du mal à me représenter la quantité de travail que ça nécessite, parce que chaque image est vraiment, vraiment, vraiment bien travaillée. Alors, est-ce qu'il s'aide d'un ordinateur ?
Je pense que oui. Oui, là, c'est assez évident.
La question, c'est comment ? Je pense qu'il y a des textures par endroit. Je me demande aussi s'il n'utilise pas un peu de 3D, parce qu'il y a certains éléments qui se ressemblent beaucoup. On voit beaucoup de personnages qui sont reproduits plusieurs fois, mais enfin, il y a vraiment une grosse, grosse qualité graphique. Du coup, comme je me suis pas mal penché sur le dessin, j'ai trouvé que par moment ça avait ses petites contreparties. Donc on a notamment les décors qui paraissent assez pauvres, comme on a vraiment un graphisme qui est plein de détails. Par exemple, la première planète, c'est des immeubles et c'est vide. Voilà. Donc on a du mal à capter une réelle ambiance. Également, par moment, Flash est assez inexpressif. J'ai trouvé sur certaines vignettes, on a du mal à lire.
Un visage générique de personnes blondes.
Exact, assez figé, assez fade. Et puis, certaines actions sont assez mal rendues. Je pense à un coup de poing, je ne sais plus si c'est dans l'issue 2 ou 3. En fait, j'ai dû analyser la scène pour comprendre qu'il y avait un coup de poing qui était donné. Globalement, on a juste les deux personnages face à face et un bras tendu entre eux.
Ouais, c'est pas très dynamique.
Voilà, ça manque clairement de dynamisme. Au contraire, par moment, il y a vraiment très chouettes images. Il y en a une avec les Guardians of the Galaxy, notamment, qui est vraiment bien faite. Donc voilà, des chouettes dessins, mais par moment, des défauts un peu gros, quoi. Je peux peut-être en parler vite fait, notamment un qui m'a particulièrement choqué, du coup, comme je me suis arrêté un peu sur les cases. À un moment, il y a trois créatures dans une mare. Il nous a fait des reflets, mais complètement raté en fait. Il n'y a que deux créatures qui ont des reflets, et les reflets sont juste des images miroirs en Photoshop, vous savez, qui ont fait une symétrie. Et c'est pas comme ça que fonctionnent les reflets. Et du coup, si on s'arrête un peu sur les reflets, ça marche pas du tout, quoi. Donc tout le dessin prend un gros coup au niveau de la crédibilité.
Donc des efforts sur des trucs, mais
voilà,
du laisser aller sur des détails qui en fait gâchent.
Exactement. Avec une qualité graphique comme ça, on s'étonne d'avoir des erreurs et des défauts comme ça dans les dessins. Avis global, du coup, c'est sympathique. C'est pas non plus. Je pense que c'est pas. C'est, on peut s'en passer.
Ils ont dit que moi, bon, on fait ça.
Bon.
Ça m'a donné envie de revenir dans Marvel, toi, du coup.
Si, en fait, j'avais lu un peu Secret Wars, donc oui. Mais...
Ah voilà, voilà.
Mais non, clairement, je suis pas du tout sûr de continuer Venom. Un point aussi que j'ai noté, que j'avais pas parlé, je trouve que le personnage de Flash est du coup assez fade. Et c'est un peu dommage parce que moi, je connaissais le Flash justement, comme on dit au début, un peu bully, un peu bêta, un peu brut. Et c'est dommage de pas utiliser ces traits de caractère là pour l'associer avec le symbiote, pour essayer de faire quelque chose un peu sympa et qui change un petit peu. Là, en fait, on a encore un héros comme on les connaît tous dans Marvel. Et d'ailleurs, à un moment, il fait même une blague avec une référence à Tolkien. J'ai trouvé ça particulièrement déplacé pour un capitaine de football américain qui harcelait les nerds au lycée.
J'avoue. Du coup, on va passer.
Oui, pardon.
On va passer à Zeph qui était en train de composer des choses.
Je le coupe parce que c'était pas intéressant, parce que c'est Venom et que c'est de la merde. Je peux le dire maintenant. Alors, je suis vraiment pas chaud du tout. En fait, j'ai pas du tout aimé le comics. C'est très mauvais. Je trouve ça très mauvais à plein de niveaux. Visuellement, c'est pas si dégueu que ça. C'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, il y a vraiment des cases qui sont vraiment très belles. Il y a des dessins sur lesquels il prête beaucoup d'attention. Au niveau de l'histoire, je me suis emmerdé comme pas possible. Mais alors, ultra violent. C'est pas intéressant, ça vient de on ne sait pas où, c'est dommage parce que Venom, quand il a été introduit dans les Guardians, en fait, il était assez intéressant. C'était une bonne. Enfin, il y a un truc, il était bien amené en tout cas. Il n'était pas extrêmement mis en avant dans la série parce que c'était un petit peu le côté gardien, enfin gardien, si on pouvait dire que c'était un des Guardians.
Bah, mais... C'était un peu le perso qu'on n'attendait pas, quoi.
Voilà, ouais, mais surtout, il était toujours en arrière-plan, en fait. Tu le voyais, oui. Il faisait une petite blague, il faisait une petite remarque, mais voilà, c'était un gars qui était badass, qui est là, qui mène bien sa barque parmi les Guardians parce qu'il a son coup à donner dedans, mais. Avoir une série tout seul sur lui ou après ce putain de truc de la planète symbiote qui est complètement haché. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Gaylord, mais moi,
alors, est-ce que tu peux revenir un peu dessus pour détailler, parce que tout le monde peut connaître. Venom en tant que personnage un peu antipathique. Oui. Et un des adversaires de Spider-Man.
Qui est un méchant.
Et là, en
Spider.
Fait, du coup, on le voit, il est en héros. Et pourquoi?
Alors, c'est pas le même. C'est pas Eddie Brock, donc c'est Flash Thompson. Pour le coup, c'est le gouvernement.
Vas-y.
C'est le gouvernement qui a donné en fait à Flash un symbiote. Je sais même plus comment ils l'ont récupéré.
Redcon.
Non, mais je crois que ça vient.
C'est le vrai symbiote de base qui est juste passé de main en main. À la base, c'était même le Scorpion qui l'avait.
Mais en fait, je crois qu'il y avait eu un truc où Eddie Brock s'était ramené dans l'espace, il s'était fait péter la gueule et après ils avaient ramené Eddie Brock sur Terre avec.
Oh, il s'est passé plein de trucs.
En plus, je dis une connerie, c'est Carnage. Mais bref, en tout cas, donc Flash se retrouve à la salle du gouvernement avec un Venom, il se retrouve dans l'espace derrière avec le symbiote, donc il devient un Venom entre guillemets. Il se retrouve dans l'espace avec les Guardians et à un moment dans l'histoire des Guardians, donc dans l'arc des Guardians, il y a ce moment où le symbiote pète un câble et prend possession tour à tour de tous les membres des Guardians of the Galaxy. Donc tu vas avoir un Venom Groot qui est ultra badass quand tu le vois. Tu vois un Venom Rocket Raccoon et ainsi de suite. Donc ça passe vraiment de main en main, c'est assez cool comme passage.
Comme une maladie, ouais.
Et vient le moment où le symbiote parle à Flash Thompson et lui dit, il parle en disant, ouais, il faut m'amener à ces coordonnées-là, vous comprendrez sur place, je sais plus quoi, machin. Ils arrivent et là, ils voient une planète entière qui est où toute la faune et la flore, en fait, est recouverte de symbiotes. Donc il y en a partout, en fait. Et là, il y a une espèce d'entité qui parle aux Guardians et qui parle à Flash Thompson en disant, tu es un des meilleurs guerriers qu'on ait vu, tu as le cœur pur, tu as je sais plus quoi, bref, c'est un peu, t'es un élu des symbiotes.
Je suis en train de penser aux symbiotes qui est, je sais pas, tu dis que tout est symbiote sur cette planète, je pense le mec qui est symbiote d'une fleur, tu vois, la grosse arnaque.
Non mais quoi. C'est ça en fait, c'est ça, tu vois des fleurs géantes avec des symbiotes dessus, si je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'avais cette image, en fait, j'étais en train de le lire chez moi le soir, et j'avais cette image où j'ai ouvert la page, et j'ai vu ça, je crois que je vais aller dormir tout de suite, et j'ai refermé en me disant je finirai ce comics plus tard. Vraiment, je trouvais ça à chier, en fait, désolé pour le gros, mais c'est comme ça. Et donc, t'as toute la planète qui parle en espèce d'osmose, et qui parle donc à Flash Thompson, en disant voilà, t'es le meilleur guerrier du monde, blablabla. On va, faire en sorte que son symbiote perde toute sa rage et sa haine, et on va un peu le level up, on va un peu l'améliorer, et on va le rendre encore plus balèze, ce qui fait que maintenant il a plus un symbiote classique qui lui colle à la peau, il a une espèce d'armure, c'est un truc en métal, on dirait une armure
Comme il le décrivait, oui, c'est comme tu dis, c'est un symbiote qui normalement, en gros, doit faire un check-up normalement sur la planète régulièrement pour se mettre à jour, sauf que ce symbiote-là s'est perdu depuis
des
dizaines d'années.
D'où la rage.
Il revient et grosse méga mise à jour.
Voilà. Et donc du coup, il devient ultra balèze. Il a vraiment il me faisait penser un peu à un médiéval spawn par moment, tu sais, avec le côté armure ultra badass avec l'épée tout
bref. Ouais, c'est un peu chevalier de l'espace.
C'est exactement ça. Et donc Space du coup, Knight. Il devient derrière le Space Knight. Yeah. Voilà. Je me souviens plus comment il quitte les Gardiens, mais bref. Et donc là, c'est
mais
ultra.
Il les quitte pas en fait. Non
si,
non, en fait, il est dans son titre, mais à côté, il est toujours dans les Gardiens.
Ah voilà, oui, ouais. Là. En ce moment, il est encore chez. Oui, il est encore chez Guardians, ouais, effectivement. Bref, dans tous les cas, pour revenir à la série, moi, j'ai trouvé ça chiant. C'est pas intéressant parce que ça pourrait être un truc fun dans le sens où on pourrait apprendre vraiment des trucs à la limite. Quitte à explorer le côté symbiote, planète symbiote, machin et tout, autant l'explorer à fond et faire un truc fun. Là, au bout de 3, j'ai poussé au 4. Quatrième issue, franchement, je me suis fait chier. L'action est pas belle. Il n'y a pas de combat. Ça donne un coup de poing. On voit le coup. Enfin, même pas partir et le combat est fini en 2-4. Franchement, je peux pas. Ça me rappelle encore une fois ce que je disais la dernière fois. C'est un des premiers trucs qu'on avait chroniqué. C'était Black Widow. C'est pareil, c'est chiant. T'as envie de faire un truc bien, mais c'est chiant à lire. Je suis désolé, j'aime pas.
drop le pen.
Drop le stylo.
Drop le pen.
Yellow.
Oui, ton prénom. Qu'en as-tu pensé?
J'ai pas trouvé ça complètement à chier. J'ai trouvé ça. Je trouvais que le dessin, les aventures très basiques en fait. Hein, c'est surtout des missions de récupération, de sauvetage où ils plaisantent entre deux sauvetages. Genre, mais attendez, vous pouvez me dire ce que c'est un agent du cosmos, que moi j'ai à peine de devenir et je sais pas trop. Et à chaque fois on lui répond à côté, on lui répond à moitié de mot, puis l'autre se fait casser la gueule. Enfin, il n'arrive jamais à avoir une réponse franche et correcte. Et je trouvais qu'il y avait un petit charme un peu désuet. Tu vois, enfin moi je trouve, enfin déjà je suis conquis par le fait tout simplement que il y a un changement de statu quo sur un personnage. Déjà quand tu lis Marvel depuis des années,
c'est quand même dur de reprendre un personnage comme ça quand il a été mis dans les mains de Remender.
C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, Rick Remender, enfin il se, comment dire, son absence se fait voilà, cruellement sentir, putain. Parce que il était dans son titre solo. Il est moment Remender aussi avait, je sais pas si tu l'avais lu, les Secret Avengers de Remender. Il faisait partie de l'équipe. Non. Aux côtés de Valkyrie, aux côtés de Beast, de Captain Britain.
Tu m'en dirais là.
C'est excellent. C'est vraiment très très bien. Et voilà, tu te retrouves avec ça. Et c'est très joli en fait. Je pense que c'est très con, mais je pense que ce serait pas aussi joli, aussi soigné, et puis aussi un petit peu charmant dans le côté des extraterrestres avec des gueules cheloues. Enfin moi ouais, ça me fait un peu kiffer. Mais
c'est la facilité du truc qui me fait chier.
Mais oui, c'est loin d'être un indispensable. Ouais.
Ok. Bon,
qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'as lu ou pas?
Bah, moi j'ai tout lu, hein. je lis toujours tout.
Ouais, mais tu nous dis jamais rien, Eric.
Bah non, mais. J'aurai le temps de faire des reviews dans le futur.
Teaser
de ouf.
Ce qui va nous permettre de passer à la troisième revue de ce soir. C'était pas très.
Voilà.
Voilà. Ça s'appelle We Can Never Go Home. C'est chez un éditeur dont on n'a jamais parlé.
Jamais.
À ce jour, qui s'appelle Black Mask Studios. Ouais. On en parle. Je pense.
Non mais
tu vas voir. Donc c'est une série qui a été écrite en duo par un Matthew Rosenberg et un Patrick Kindlon et illustrée par un Josh Wood. Je dis un parce que.
Pourquoi tu mets un?
Ouais, parce que ça fait un peu, tu sais, ordinaire des personnes, monsieur et madame tout le monde. Là, du coup, c'est monsieur tout le monde. C'est sorti en TPB en décembre 2015. Et en fait, on reviendra sur la maison, je pense, en détail un peu plus tard quand on aura fait bien nos recherches. Mais cette série a eu énormément de prix. Et c'est lui là, Zef, qui va en parler et va nous présenter. J'espère qu'il va pas nous vendre trop de rêves.
Ah, en fait, alors pour revenir sur la petite histoire, parce que j'en ai toujours une, je suis tombé sur. En fait, je suis allé en Angleterre, à Londres il n'y a pas très longtemps, et je suis allé à Forbidden Planet. Et je fouillais là-bas parce que forcément tu fouilles,
perds
ton temps.
Je suis allé aussi, mais j'ai vomi dans la rue, j'étais malade.
Oh merde. Ah oui, c'est ça le vomi.
Juste après avoir vu Batman Superman.
Oh merde. Oh, fait,
sérieux.
C'est Martha, tout ça. Bref, donc du coup, je suis allé là-bas et j'ai vu ça et je vois plusieurs fois en fait plusieurs comics avec un éditeur, donc Black Mask Studios. Et je me dis putain, mais c'est quoi cet éditeur? Et je pensais que c'était un tout petit éditeur anglais, quoi, tu vois. Et donc je vois le TPB We Can Never Go Home, j'ouvre vite fait, je vois le dessin, je suis là, putain, ça a l'air sympa et tout, la couve a l'air cool. Ok, vas-y, je me tente, vas-y, 25 balles, non je déconne, mais bref, je sors mon ticket Comics Outcast, on me laisse passer à la caisse avec, ouais, tout va bien. Et,
c'est toi qui l'as ?
Ouais. Et donc je rentre à l'hôtel, je commence à lire et je le finis une première fois, je dis ok, c'est sympa, c'est pas ouf, mais c'est sympa.
C'est bien, mais pas
et je le propose quand même pour l'émission. Donc pour savoir, donc Black Mask Studio, il faut savoir, c'est une maison d'édition qui date de 2012, qui est américaine, donc je me plantais complètement, je comprends pas pourquoi on n'en a pas en France d'ailleurs. en tout cas, qui a été créé par Brett Guveritz, Steve Niles et Matt Pizzolo. Et elle a quelques titres à son actif, hein, beaucoup de comics, enfin beaucoup, une petite dizaine de comics. Et quand j'ai fait mes recherches rapidement dessus, toutes les reviews qu'on voit sur les comics qui sortent de cette maison d'édition sont des cartons. C'est tout, tout est bon. Sur des notes sur 10, il y a toujours du 9,5, du 7, 7,5, 8, 2, machin. Putain, mais c'est
Martha
ouf.
Sur 10.
Mais en fait, il y en a... T'as dit quoi ?
Rien.
Okay. Et il y a quelques titres qui m'ont donné envie. Donc un titre qui s'appelle Pirouette, s'il te plaît. Space Rider, Last Born. Donc du coup, c'est le truc. Je vous ai sûrement entendu parler de la maison d'édition dans le Comics Outcast, plus ça. Pour We Can Never Go Home, je tombe pile poil avec la musique. C'est une histoire. En fait, c'est un road trip. C'est un road trip de base. L'histoire en elle-même n'est pas affolante. Elle n'est pas. Elle change. Enfin, c'est un truc vraiment basique, mais il y a un fond qui est fantastique. En fait, rapidement. La petite intro, ce serait de dire que voilà, on a une meuf qui s'appelle Madison, qui est un peu la cheerleader populaire du lycée, qui sort avec le quarterback, qui est ultra balèze, machin et tout ce qu'on veut. Et un jour, un soir, le gars, il lui fait le coup de la panne. Et au moment où il va conclure, en fait, le gars, il regarde par la fenêtre et il voit Duncan. Duncan, c'est qui ? C'est l'espèce d'outcast du lycée, le côté, le geek, machin, qui est en train de les mater. Donc là, il sort, il s'énerve un peu, il va pour lui péter la gueule. Sa meuf sort en disant « Non, vas-y, le touche pas, machin et tout. » Dans l'échange, elle prend un coup et là, elle s'énerve. Et on voit que quand elle s'énerve, elle... Et eh ben c'est pas de la rigolade parce qu'elle est un peu genre boostée aux stéroïdes, un peu genre She-Hulk mais sans la couleur.
Sans les yeux.
Voilà, et avec les yeux qui sortent des éclairs en espèce de mélange. Et donc elle pète la gueule au quarterback, il se barre et donc là, il commence à avoir une petite histoire d'amitié en fait entre le geek du lycée et la meuf la plus populaire. Et si vous pensez que le comics parle de ça, vous avez tout à fait faux parce que c'est pas de ça du tout. En fait, Madison a donc son petit secret, elle a une espèce de super pouvoir parce qu'elle est ultra balèze quand elle s'énerve, elle est quasi invincible. Et lui, Duncan, a un pouvoir aussi quand il veut, il tue des gens. Il arrive à tuer des gens avec son esprit. Donc, une petite histoire d'amourette dans le premier issue commence entre eux. Et puis, à un moment, il y a un truc qui se passe, un accident qui tourne mal et Madison tue quelqu'un. Elle le tue, elle explose, quoi. Vraiment, le gars, il a éclaté par terre. Et là, en fait, elle commence à paniquer, elle est jeune, elle sait pas quoi faire. Et là, Duncan prend les choses en main en disant, t'inquiète pas, moi, j'ai un plan. On va se barrer, on va faire un road trip, mais bon, on prend une voiture, on prend une cassette pour écouter de la musique, un peu deux, trois vêtements vite fait, un peu de fric, et puis on se casse, on fait un road trip. Et en fait, l'histoire commence comme ça. L'histoire va vraiment s'accélérer par la suite parce qu'on va découvrir plein de choses que j'ai pas envie de spoiler parce que ça se découvre, mais c'est basique, c'est pas non plus l'histoire du siècle, faut le dire, quand vous m'écoutez, vous pensez, j'en suis sûr, vous pendez de petits malins, mais le scénario est franchement très bon derrière. Il y a une profondeur de scénario, il y a des dialogues qui sont ultra intéressants, qui sont ultra bien pensés, qui sont ultra pointus par moments. Tout est vraiment très bon. En fait, quand j'avais vu la première fois le comics, encore une fois, je m'étais dit, ok, c'est pas ouf parce que le scénario, dans le fond, n'est pas génial non plus. Il casse pas des briques, c'est dû un peu du vu et du revu. Quand je l'ai dû le relire pour Comics Outcast, je me suis juste dit, putain, mais en fait, c'est génial. La profondeur des scénarios, elle est parfaite. Encore une fois, les dialogues sont bien péchus, ils sont bien pensés, il n'y a pas de temps mort. L'action à l'image n'est pas folle parce qu'au niveau dessin, moi, j'accroche pas des masses, même si c'est ce qui m'avait attiré à la base. Et du coup, non, ça c'est mon texto, merci. Et donc du coup, il y a un truc qui fonctionne bien. Et quand vous le lisez en TPB, parce que moi je l'ai pris en TPB bien évidemment parce que j'achète mes comics, je les cherche pas. À la fin, en fait, il y a évidemment plein de couves différentes qui sont juste fantastiques. Et il y a un tout petit mot à la fin qui vient de Duncan, en fait, qui est, c'est un moment Duncan au tout début, en fait, donne une cassette. Je crois que ça va se passer dans les années 80. Il n'y a pas de notion de date. Et en fait, il lui donne une cassette de combi qu'il a fait, il donne ça à Madison en disant, tiens, écoute ça, c'est le groupe dont je t'ai parlé hier. Et en fait, il lui donne une lettre avec, qu'on lit pas forcément dans le comics, et à la fin, on la voit. C'est juste un petit mot en disant, voilà, écoute ce cassette, reste chez toi, dans le noir, mets tes écouteurs, tu verras, juste imprègne-toi des groupes, imprègne-toi des chansons. Écoute-la jusqu'à peu en plus pouvoir et tu verras qu'en fait tu découvriras un truc bien en fait. Et franchement, cette petite phrase à la fin, elle est juste débile, mais elle résume complètement l'idée en fait, la profondeur de certains dialogues, la façon de penser de Duncan, la façon de penser de Madison. Tout ça, c'est vraiment, c'est construit. Moi, je suis complètement tombé dans le comics alors que j'en attendais absolument rien. Donc voilà, lisez-le, c'était cool. Merci.
Excellente surprise en fait.
Putain, il a fini à la fin de la musique pile poil quoi.
T'as vu ça ? Et encore, on n'avait pas répété ou pas ? On n'avait pas répété ou pas ?
Prévu. Grégo, est-ce que t'as été séduit de la même façon que Zef ?
Complètement. J'ai vraiment, vraiment bien accroché à l'histoire. J'ai vraiment bien accroché aux deux personnages, à l'écriture. Moi, je suis particulièrement sensible à toutes ces histoires où finalement tu as le fantastique qui fait irruption un petit peu dans l'ordinaire et voir comment les personnages réagissent à ça. Donc là, on est clairement dans une situation où cette fille, Madison, pourrait très vite s'orienter super-héroïne. Alors j'espère que ça va pas tourner comme ça. Pour le moment, c'est très très road trip. Non, vraiment très bien écrit. C'est la seule série que j'ai lue au-delà de l'issue 3 ce soir, parce que le cliffhanger à la fin de l'issue 3 est impossible.
Si je veux pas tenir.
Il fallait que je lise la suite. Très très bien. Non, le dessin, rien de particulier à dire. Je pense que ça colle bien à l'histoire. C'est pas extraordinaire, mais c'est de qualité tout à fait raisonnable.
Bien. Voilà. T'as l'air dur au niveau de l'illustration.
très bonne histoire. Je conseille aussi. Je pense que je vais vraiment continuer.
Gaylor, à toi de nous dire ce que t'as pu en penser. Est-ce que toi aussi t'as eu l'œil qui a chialé, le cœur qui a vibré?
Moi, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, bonne surprise.
Oui, t'as pleuré ou pas?
Pas du tout, non.
Ok. Pourquoi tu pleurais? Parce que voilà, les émotions, les hommes, voilà.
Un podcast pour les hommes.
J'ai déjà trop pleuré ce week-end.
Et je sais pas, moi vous avez dit tout ce qu'il fallait dire, hein, je pense. Hein, les dessins m'ont pas particulièrement attiré au premier regard. Les premières pages, c'est bon, ok, je sais pas trop ce que c'est. Et puis, comme le disait Greg à l'instant, t'arrives à la fin d'un issue, tu fais bon bah. Enfin, t'es un cliffhanger, tu peux pas t'arrêter, quoi. J'ai pas pu m'arrêter à la fin du 1, j'ai pas pu m'arrêter à la fin du 2. J'ai dû m'arrêter à la fin du 3 parce qu'il fallait que je vienne nous en parler. Mais j'y serai encore, je pense. C'est vraiment. En plus, c'est marrant parce que ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. C'est juste. C'est prenant. Et puis ça t'embarque doucement dans une petite histoire. Tu sens que ça va vers un espèce de Bonnie and Clyde avec des super pouvoirs.
Ouais,
mais sans les costumes, sans le côté moral américain et la con. En fait, il leur arrive plein de tuiles et ça grimpe dans l'escalade à chaque fois d'un cran au-dessus et c'est pas mal du tout.
Greg voulait intervenir.
Oui. D'ailleurs, je voulais revenir sur le personnage de Duncan. Je ne sais pas si Zef en a parlé, mais au final, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on a un gros mystère qui pèse parce qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment des pouvoirs, en fait.
Je ne vais pas trop amener ça sur la table. Ouais, effectivement, j'ai dit qu'il avait un pouvoir, mais
voilà. Donc, on ne sait pas trop s'il est s'il raconte des sornettes, en fait, pour se mettre Madison dans la poche, ou si c'est vrai. Donc, c'est assez intéressant aussi dans l'histoire, ça.
Ouais, dans les trois premiers issues, en fait, on le voit pas forcément l'utiliser. Ah. C'est ça qui est fort.
Ah, d'accord.
Du coup, ça, c'est un comics donc qui est déjà sorti. En fait, c'est paru pendant l'année 2015. C'est sorti en TPB, comme je disais, à la fin de l'année. Il me semble que ça va sortir, enfin que vous pouvez trouver dans vos crèmeries habituelles, et que donc c'est une mini-série en 5 numéros, et qu'il y a une suite qui est prévue. Donc, j'espère qu'un éditeur français, en tout cas francophone,
pourquoi pas nous,
hein, va le refaire. Vous avez le temps.
Je sais pas. Non.
Voilà. En attendant, pour
tout. Tu me brises mes rêves là comme ça d'un coup.
Comme ce tout le monde. I'm the dream breaker. Comme d'habitude,
le super vilain de...
vous avez l'occasion de nous faire vos remarques par rapport aux séries dont on a parlé sur le site de Radio Kawa ou alors sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux dont on s'occupe absolument jamais. Ah non, j'ai quand même. En ce moment, ça va super bien. On se retrouve juste après une petite page de pub.
La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapar, sur Radio Kawa.
Ce n'était donc pas un jingle de retour dans la 40...
C'est un jingle, ok.
Voilà, comme si...
j'allais dire, on dirait Wonder Woman qui débarque.
De retour dans cette 44e épisode de Comics Outcast.
De Camille Outcast.
Toujours entouré de mes chroniqueurs, de mon réalisateur et de notre public.
il y a Dan qui arrive, il faut...
Et il y a Daniel qui arrive, il faut ouvrir la porte, donc on va lui ouvrir la porte. Sur un autre sujet, nous allons parler, nous allons passer au focus.
Ouais.
Le focus, c'est donc la sélection d'un de nos chroniqueurs sur une série qu'il a déjà lue et qu'il apprécie tout particulièrement. Cette semaine, c'est Gaylor qui a choisi iZombie. Alors comme je disais dans l'introduction...
Bon, c'est Dev qui a choisi pour moi et c'est un très bon choix.
iZombie, on en a déjà parlé, mais pas dans ce média-là. On parlait de la série télé qui en est maintenant à sa deuxième saison et qui marche plutôt bien.
16e épisode et 7e épisode, ça défonce.
Et c'est très très bien. Seulement, cette fois-ci, nous avons choisi, opté même, je dirais, pour parler avec un mot savant, de parler de la version comics de ce titre, qui, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir. Et c'est Gaylor qui va nous en parler un petit peu.
Ouais, c'est bon, j'y vais là.
Oui, c'est bon, t'y vas, top chrono.
Série Image, hein, pour changer, une série... Non, c'est Image ou c'est Vertigo? C'est Vertigo, je crois, c'est de la merde. Je commence direct en disant de la merde.
C'est Image, je crois, mais tu mets un doute en disant quoi.
Vas-y, vérifie, moi, je continue. Scénario de Chris Robertson que je ne connais pas du tout et j'ai pas du tout à fait là-dessus. Par contre, dessin, ouais, c'est bien. Hein.
Bravo.
Mais par contre, au dessin et aux couleurs, Mike et Laura Allred, qui
oui.
sont.
Ils sont tout rouges.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allred or different.
Allred,
voilà.
Okay.
Et donc, ils sont vraiment des artistes super, enfin que j'apprécie énormément. Ils sont vraiment très très doués. Ils ont fait entre autres. Fantastic FF avec Matt Fraction.
Maintenant que tu dis ça, je reconnais leurs gros traits. Là.
Ouais, voilà, ouais, ils ont un trait très très épais avec des couleurs très très vives. En ce moment, ils dessinent avec sous l'histoire de Dan Slott le Silver Surfer. Et c'est très très
d'accord.
bien.
D'accord.
Et partons sur le pitch. Alors vas-y, dis-moi.
Alors sur Google ouais. Images, ils disent ils ont vie. Tu vois
ah, je l'ai.
Et en fait, c'est Vertigo.
D'accord, super. iZombie, c'est
on
un.
On aurait pu demander à Daniel, effectivement.
Mais oui, c'est vrai que Daniel est là.
Il est arrivé. Il a vu Civil War.
Oh putain.
Chut,
chut.
Donc, iZombie.
Comment s'appelle Martin?
Ah, mais j'ai plus envie de parler d'iZombie là.
Bah, vas-y,
Daniel vient me parler de. Ah putain.
Vas-y, enchaîne là.
Mais oui, mais oui. iZombie, en fait, c'est un horror comics. Enfin, ça part de ce principe-là. Il y a des zombies, il y a des loups-garous, il y a des momies, il y a tout le bestiaire que vous connaissez habituellement. Sauf que ce n'est pas du tout l'ambiance horror comics. C'est plus un Friends en fait, avec des comics,
c'est vraiment,
enfin avec
tu
des
dis.
Comics, avec des monstres issus de ce type de comics. Ça me fait un petit peu penser à Twin Peaks aussi pour le côté petite ville paumée dans les États-Unis. Bon, sauf que Twin Peaks au Canada et petite ville dans laquelle tout le monde se connaît, tout est connecté. Tu marches dans la rue, tu croises le grand méchant du truc, tu tombes sur un tel qui est connecté avec toi. Enfin, c'est toujours plein de connexions folles. Et ça m'a fait un petit peu penser aussi, bah, c'est Buffy en moins dramatique. Voilà, j'ai fait un espèce de gros pitch en parlant de plein de séries télé pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Et bah, c'est l'histoire en fait de Gwen qui est un zombie, mais pas un zombie comme les autres, qui est un zombie, on va dire un peu plus rare en fait, parce que elle est en pleine possession de ses capacités en tant qu'humaine, et elle doit simplement une fois par mois se nourrir de cerveau pour en fait garder son apparence et son mental.
Sinon, elle
sous décrépit, peine de devenir bah, un zombie comme on l'entend, à savoir décrépit, le côté ouais. tout ça. Et alors. Première comparaison avec la première différence avec la série télé, elle n'est pas à chaque épisode en train de bouffer un cerveau différent et puis résoudre des enquêtes policières en veux-tu en voilà. Là, c'est plus elle mange des zombies quand vraiment en cas d'extrême nécessité.
Elle mange des zombies ?
J'ai dit des zombies, des cerveaux, pardon.
Je pensais qu'elle pouvait manger des cerveaux de zombies.
Non, des cerveaux d'humains, pardon, excusez-moi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, elle en mange qu'en cas d'extrême nécessité. Et bah comme dans la série, par contre, elle est assaillie par les voix, les pensées de la personne à qui appartenait ce cerveau, et elle se lance dans des enquêtes, mais alors beaucoup moins dans le template enquête policière de la série, à savoir un truc un peu à la Scooby-Doo. Elle est accompagnée d'un
t'exagères.
Bah un petit peu quand même.
Oh putain, t'exagères de ouf.
C'est beaucoup plus léger.
Non, mais c'est pas. Défonce, hein.
Mais voilà, c'est pas un gros.
Non, mais ça fait genre ah la résolution d'enquête avec une agrafe et un trombone. Non, c'est
mais
pas ça du tout. Pas déconner.
Scooby-Doo, c'est des détectives de ouf. Hein.
Merci Joe.
Ils
sont meilleurs que Batman. Hein.
Excuse-moi.
Meilleurs que Batman dans les films.
Je pensais à Scooby-Doo plus pour le côté groupe complètement hétéroclite. Mais là, poussée à l'extrême, parce qu'on est toujours dans cet univers avec des monstres, des zombies, tout ça. Elle est accompagnée d'une fille fantôme qui est morte dans les années 60 et donc qui est très très pop, très très comment dire
Putain, je m'y mets demain.
Non, ouais, voilà, c'est la série
c'est vraiment très très cool. Elle est accompagnée aussi d'un mec, alors je crois que tu vas kiffer. C'est pas un loup-garou, c'est un je sais pas comment on peut le traduire en français. Attends, je vais le faire en anglais, c'est pas un werewolf, c'est un terrier
Un were-terrier.
C'est un mec,
c'est pas un loup-garou, c'est un
terrier-garou.
Voilà. C'est un terrier-garou quoi, normal.
Les terriers, c'est bien les petits chiens.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Avec la moustache qui descend par-dessus le museau.
Le gars, quand c'est pleine lune, il se retrouve comme ça, en fait, mais taille humaine. Quoi, ça
le mec, c'est un geek, il fait des jeux de plateau, il bosse dans un IT, tout ça. Il y a des potes qu'il voit tous les soirs pour jouer et tout. Et un soir par semaine, il fait « Non, les mecs, je peux pas, j'ai un autre truc à faire. » Donc ses potes, le charrient, ils pensent qu'il est gay, qu'il voit des mecs à côté, tout ça, mais voilà.
Parce que évidemment être gay, ça veut dire juste ne pas être disponible un soir par semaine.
Bah c'est ça, voilà. Je trouve
c'est
ça très bizarre.
C'est la métaphore du terrier garou, quoi.
Ah, c'est vrai. Maintenant que tu le dis.
Et dans cette histoire, bah, ils vont être très rapidement amenés à croiser un mec qui vit depuis des années, qui s'appelle Amon, qui est pour le coup une momie qui, comme Gwen le zombie, arrive à garder son apparence humaine, mais au prix de certains sacrifices, et qui lui explique toute l'histoire de ces monstres. Et je trouvais que c'était une histoire plutôt bien amenée avec cette histoire de Oversoul et Undersoul. En gros, si t'es juste un Oversoul comme ça, t'es un fantôme. Si t'es juste un Undersoul et que t'as quitté ton corps, t'es un poltergeist. Si t'es un zombie, ça veut dire que t'es un... En gros, ton undersoul est resté à l'intérieur de toi, mais t'as plus ton esprit oversoul, ton esprit.
C'est très clair dans le comics.
C'est très clair.
En le lisant, c'est très clair.
Là, je trouve qu'il arrive à l'expliquer assez correctement.
Oui,
en fait,
oui. Hein, c'est juste,
mais je vais pas faire toutes les déclinaisons parce qu'il y a les zombies.
En gros,
il
prend une échelle qu'il établit dans le comics, mais il prend tous les monstres populaires qu'on connaît. Il leur donne une raison par rapport à cet équilibre-là. En gros, moins plus ça égale plus.
En fait, je vois bien le gars au lycée en train d'avoir monté son truc. En disant en fait les zombies il faut les expliquer comme ça et les poltergeists aussi, et en fait il a fait son cahier texte comme ça et un jour il a fait son cahier texte.
Ouais, c'est ça, grosso modo je crois que c'est ça. Et sinon, pour parler des autres personnages très brièvement, alors j'ai oublié d'en parler, mais Gwen, elle n'est plus enquêtrice, enfin elle n'est pas enquêtrice, elle est plus elle travaille en quoi déjà dans
je sais plus, moi dès le début tu la vois qu'elle est fossoyeuse.
Oui, voilà, enfin elle est fossoyeuse, ce que je veux dire c'est qu'elle est fossoyeuse dans le comics, mais dans la série elle est
elle est médecin légiste.
Médecin légiste, voilà, merci.
Ah oui, c'est ça.
Et voilà, en gros voilà, elle se sert de ce prétexte là pour un soir par mois déterrer profaner une tombe et péter le crâne du mec, lui bouffer son cerveau, et puis bah, du coup, malgré elle, avoir des visions et faire de la peinture aussi, voilà, ce qu'elle ne fait pas dans la série, c'est plutôt cool.
Elle le fait une fois,
parce que voilà, c'était
une fois, mais c'est
ouais. Oui. Et
un petit signe, un petit clin d'œil, mais c'est pas.
On a oublié de parler d'un monstre aussi. Les vampires.
Il n'y a pas que, il y a les chasseurs aussi.
Voilà, il y a les chasseurs aussi. Mais alors, il y a les vampires et les vampires qui sont.
C'est un poule renard vipère géant, quoi.
En fait, c'est ce qu'il le dit très bien au début quand on s'était écouté. Il disait, c'est un gros Buffy, en fait.
Il réalise, c'est un gros travail de réaliser quand même.
Ça va, là.
Zeb, je trouve que t'es un peu sévère là-dessus.
Et c'est des vampires qui font du paintball. Voilà. Enfin, qui se sert du prétexte d'avoir une gigantesque forêt dans laquelle tu les invites plein de garçons. Enfin, en gros, elles tiennent un stand de paintball et puis elles en profitent quand un mec est un peu éloigné dans la forêt en train de chercher ses potes. Bah, elle saute dessus, elle le croque, elle suce son sang et puis, mais pas trop comme ça, c'est pas suspect. Puis il repart avec ses potes, il a passé une bonne soirée. Et voilà, elles font de la com autour de ça. Enfin, c'est n'importe quoi.
C'est génial.
Mais c'est vraiment cool.
C'est vraiment cool. En comics, ça passe tellement bien.
Du coup, comme tu disais, il y a les chasseurs de monstres, en fait, qui sont un peu le côté démoniaque de ce mec là qui traverse les âges là en mode zombie. Le côté un peu, c'est quoi les méchants dans Assassin's Creed là, les connards qui sont toujours là, les templiers. Qui sont, bah voilà, c'est en gros c'est les templiers qui foutent la merde, qui veulent pas qu'il y ait de monstres, voilà, ils sont là et ils sont pas contents.
Parce qu'en fait,
j'ai pas tout lu donc je sais pas.
Non mais le problème c'est que non, j'ai pas tout lu non plus. Mais le problème c'est qu'on a tellement le point de vue uniquement du côté de Gwen parce que c'est un monstre qu'on a tendance à prendre eux en sympathie en fait. Donc du coup eux ça devient les méchants. À contrario, on serait du côté de Buffy, on dirait que c'est les gentils, quoi. Mais dans l'idée, je les trouve assez intelligents, bien montés en termes d'organisation. Et j'ai pas fini le tome 2 là, mais donc je suis
à la fin du tome 2 moi. Ouais.
Voilà. Du coup, je me demande vraiment qu'est-ce que ça peut donner pour la suite, quoi. Mais ça tue.
Mais t'as vu ce qui se passe du coup dans le tome 2? Il y a une espèce de, tu sens que le grand méchant, c'est une espèce de. J'ai envie de dire Cthulhu.
Non.
Une espèce de Cthulhu.
Faut pas le dire, faut pas spoiler les
Mais non, c'est pas vraiment Cthulhu, on sait pas, tu vois. Mais enfin, en gros, le mec s'amuse avec tous les monstres qu'il a
En fait, on sait pas. Enfin, j'ai l'impression que ça va être un gros twist à la. Mais. Pff,
On sait pas. On sait pas, mais c'est tellement excitant de voir ça. En plus, c'est le, comme je disais, c'est Michael Red qui dessine ça. Et t'imagines une histoire de, enfin, un truc qui est censé faire peur avec du sang, tout ça, mais dessiné de façon très pop. C'est surnaturel et pop à la fois. Coloré, c'est très coloré. C'est génial. Avec son trait vraiment très particulier où les personnages sont toujours très à plat. C'est pas ultra dynamique, mais enfin chaque page est vraiment.
Non, ça passe très bien en fait. Super, en plus, ouais. pour avoir une idée, pour ceux qui regardent la série, c'est le mec qui, on le disait la dernière fois, c'est le mec qui fait le générique en fait.
Oui,
c'est
voilà.
Exactement les mêmes dessins, c'est les exemples même.
J'ai bien en parler, ouais.
Donc ça défonce. Mais
pour donner une bonne idée de comment c'est illustré intérieur, quoi.
Ouais, clairement. Ouais. Et même, enfin, tout est bon en fait. Mm. Tout ce qui touche à iZombie, enfin moi à mon sens, moi je continue à regarder la série, je la trouve vraiment excellente.
Du coup, tu vois, moi j'ai commencé par la série, donc je suis passé par le comics et je me dis mais pourquoi ils ont pas adapté le comics à la lettre, quoi.
Parce que le problème, c'est que tu l'as dit, ça aurait été un vrai Buffy en fait. Ça aurait été moche.
Ouais, mais ce Buffy,
non, mais enfin, honnêtement, t'aurais eu.
Mais la série est pas mal, hein. Mais
pas mal. Enfin, elle tue la série.
Oui,
non, mais la trame de fond, elle est juste géniale. Genre l'idée, enfin bref, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que adapter tout ça dans le même sens. Avec tout le bestiaire, tous les effets spéciaux que ça aurait demandé,
oui.
Tout, c'est un, tu tapes pas le même public, tu fais du Buffy, tu fais clairement du Buffy et c'est pas du tout ce qui aurait été vendeur, ça aurait pas du tout touché la même tranche et même moi je pense que j'aurais pas regardé. Donc du coup, je suis assez content qu'ils aient réussi pour une fois à s'inspirer d'un comics et vraiment de très loin s'inspirer parce
oui,
que il y a qu'un élément qui est le même pour en faire une série qui est plutôt correcte. De base, qui, si on s'y intéresse un peu plus, peut devenir vraiment intéressant.
Ah, mais la série a des qualités, elle est bien écrite, voilà. Chaud, les dialogues sont parfaits.
Après, voilà, bon, c'est le côté. C'est un peu moins maintenant sur la saison 2, mais c'est pas un freak
c'est
of the week.
C'est répétitif
quoi.
Un petit peu, je trouve.
Ça l'est un peu moins sur la saison 2, mais c'est perso.
Bah, c'est amusant, en fait, de voir l'actrice s'approprier un caractère, genre elle d'un collé.
Ouais, voilà, mais c'est pour ça que la saison 2 change complètement. En fait, on a une autre trame de fond qui est plus importante.
Et donc, le comics.
Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils aient réussi à faire ça à partir d'un comics qui est vraiment très bon de base, en fait, aussi. Et du coup, les deux se complètent pas du tout, sont à l'opposé l'un de l'autre, mais restent deux produits qui sont vraiment super intéressants à lire et à regarder. Quoi. Donc, moi, je valide les deux. Quoi.
Donc, moi, le comic, j'ai kiffé. Voilà. Je vous recommande chaudement.
Du coup, Greg, Grégo, comment je t'appelle ? Greg ou Grégo ?
Tu m'appelles comme tu veux. Donc, si tu veux.
Alors, en ce moment, ce sera Jacques.
Jacques. Jaco.
Non, Greg, du coup, toi, tu l'as lu aussi, tu connaissais ou pas ?
Alors, je ne connaissais ni la série, ni le comics. Sachant qu'à la base, je suis vraiment pas fan de ce type d'univers, zombies, vampires, loups-garous, etc. Mais je trouve que le comics passe plutôt bien. Le ton léger contraste bien avec le thème de base. Non, ça se lit bien, ouais. Plutôt aimé, je pense continuer un peu. Juste le point qui a été évoqué, c'est l'explication un peu des phénomènes qui est bien trouvée, mais je suis pas fan non plus de tout expliquer dans les comics.
En fait, c'est pas ça, pas un gros bullshit ou un truc comme ça, hein. Son explication au final.
Parce que quand t'as l'antagoniste qui t'explique un truc,
c'est
en
assez,
général,
c'est assez mathématique aussi, comme explication. Je trouve que ouais, c'est
dichotomique. Du coup, moi, enfin, je l'ai lu aussi, comme vous, pour pouvoir préparer l'émission. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un Penny Dreadful sans la prise de tête et sans le côté qui sommes-nous,
le côté drame en moins, ouais, bien voilà. Sûr. Ouais.
Donc c'est beaucoup plus léger. Bon, même si certaines morts et certaines conditions sont quand même, enfin, j'imagine dur à vivre. Enfin, bon, je pense que personne n'est un zombie qui doit manger des cerveaux pour continuer à vivre. Mais
bon, bah voilà, je vous le dis maintenant.
Mais c'est quand même plus léger. Et il y a un personnage dont on n'a pas parlé parce qu'on parlait de ceux qui étaient un peu les plus drôles et les plus funky, donc le chien gars, enfin le terrier garou et tout ça. Mais il y a un personnage qui est juste un fantôme, qui est mort dans les années 50-60 et qui a sa petite coupe au carré.
J'en ai
arrondi.
Parlé.
T'en as parlé peut-être, mais moi j'en parle mieux. Et qui en fait est la nana qui.
Ah ouais, c'est ton émission.
Qui, oui, c'est vrai. Qui. non, j'ai quand même. Qui a le pouvoir donc de passer à travers les murs, tout ça, mais qui ne peut aller uniquement dans les endroits où elle est déjà allée dans le passé.
Oui. C'est
un peu plus complexe que ça après par la suite, mais oui elle est.
Et c'est...
Non mais j'aime bien ce personnage parce qu'à un moment je crois que c'est dans le premier tome où elle lui donne une mission en disant ouais va espionner machin et elle dit de toute façon elle le fera pas parce qu'elle va oublier entre temps. Et en fait tu vois juste qu'à un moment elle se dit putain je sais que je dois faire un truc mais j'ai oublié quoi donc je vais rentrer chez moi.
Et voilà c'est le personnage un peu léger qui se retrouve au milieu de toutes les affaires de l'héroïne mais qui par ses, enfin son, elle a une innocence parce qu'elle est morte très très jeune, une espèce d'innocence, et elle s'en fout en fait. Elle veut aider, elle veut, enfin elle est amie avec tout le monde, mais c'est pas grave si elle fait pas, elle peut pas résoudre le grand crime, tant pis. Elle retourne dans sa crypte là où elle est enterrée, et basta quoi.
Et ça, ils vont tous manger une tarte chez Dixie.
et c'est ce qui pour moi, enfin moi c'est le personnage qui dédramatise le plus tout le ton. Enfin le ton de la série n'est pas lourd, mais ça l'allège un peu quand même. Ça l'allège un peu. Adrien Delon a une question.
Oui.
Une remarque.
Est-ce que c'est graphique un peu, tu vois, genre zombie, gore, ou est-ce que c'est pas trop gore?
Je crois que j'ai pas vu une seule goutte de sang.
C'est complètement pas gore. C'est complètement stylé dans le genre années, enfin vraiment pop années 60 ou ouais, comme ça, très coloré, ouais, très.
Je vais te montrer, Adrien.
Regarde, regarde, pendant que je suis en train de parler dans le micro. Donc non, c'est vraiment pas gore du tout. Il y a, enfin, je crois même pas. Ouais, il y a pas de sang.
Il y a pas une goutte de sang.
Je crois qu'il y a un mec qui doit se faire torturer au début. Tu le vois même pas. Non, c'est vraiment très simpliste. Même les cerveaux, là, j'en vois vite fait. Les cerveaux sont pas gore du tout, quoi. C'est juste une boule rose à la limite qui est là, quoi. On pourrait voir une.
Je crois qu'on la voit même pas mâcher dedans, en fait.
Non, non, même pas. Non, c'est vraiment très. C'est vraiment très. En fait, le seul truc qui est qui fait que ce soit chez Vertigo, c'est, je pense, c'est le thème en général, quoi, mais c'est pas plus que ça.
Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la série, pour le coup, on sent à la fois cet attrait pour la pop. Enfin, justement, tu vois, par exemple, les cerveaux qui sont jamais très réalistes, qui sont des espèces de petits trucs roses, tout mignons, tu vois. Et en même temps, il y a des scènes qui sont quand même un peu crues, tu vois, qui vraiment s'approchent du genre zombie. Et du coup, je me demandais si on retrouverait le genre zombie dans iZombie.
Non, moi j'irai non pour l'instant, ça reste vraiment très
très prétexte, ça. Du coup, alors donc c'est sorti il y a un petit moment chez Vertigo, il y a combien de tomes à ce jour, Gaylor?
4.
4 tomes. Donc il y a eu
ce qui fait on en a peu parlé, près 29 chapitres.
On en a parlé sur le moment, il y a donc une adaptation télé qui n'a pour le coup pas grand chose à voir. Et j'imagine que ça existe en français chez Urban. Je me trompe? Non, ça n'existe pas encore en français.
C'est une bonne question. Je ne sais pas.
Crois avoir fait la recherche il y a longtemps pour d'autres raisons et ça n'existe pas. Si quelqu'un d'Urban nous écoute et voudrait nous prouver le contraire ou nous envoyer le numéro 1, pourquoi pas. On va se retrouver après une courte page de pub pour la dernière partie de l'émission. A tout de suite.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les tauliers, une émission Radio Kawa.
De retour dans la... On va changer générique en fait. Hein.
En fait, je détestais dans le film.
Mais hors contexte, ça marche bien.
À chaque fois, je mets Wonder Woman, le thème...
De retour donc dans la dernière partie de ce 44e épisode de Comics Outcast. Dans cette dernière partie, c'est hors les bulles. C'est quoi? C'est tout ce qui est comics, mais qui n'en est pas. Cette semaine, on a... Enfin, on... Le on en fait c'est Ben, donc Ben gros fan de plein de choses en même temps, qui n'arrive pas à détester quoi que ce soit. On a choisi un dessin animé de la DC Universe Animated Series, si je me trompe pas dans le titre.
C'est ça.
Et c'est le troisième qu'on fait dans cette émission. On a déjà fait Aquaman and the truc et bidule. Et là cette semaine c'est Avengers, non c'est Justice League versus Teen Titans, qui est sorti il y a très peu de temps, fin mars, direct to DVD, donc ça ne sort pas au cinéma et ça ne passe pas à la télé, c'est directement à disponible, soit sur Netflix aux États-Unis, soit sur les trucs de iTunes à la demande et compagnie.
Ça passe sur France 4 aussi des fois.
Mais là c'est sorti il y a deux semaines, donc bon.
Ça passera sur France 4.
Essentiellement. Donc, qu'est-ce que c'est Justice League versus Teen Titans? Justice League, vous connaissez forcément grâce parce que vous avez vu Batman vs Superman, donc vous savez exactement ce que c'est. Et Teen Titans, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous présenter les Teen Titans ici parmi nous?
Qui peut faire ça?
Voilà.
Alors, personnellement, je suis pas du tout DC, donc je vais laisser la place à un autre chroniqueur.
Oh, il a droit de mic.
Vas-y, Gaylord, tu seras mieux placé que moi. Teen Titans, c'est un peu les merdiques de... Ça va, je troll.
Pour moi, c'est un dessin animé qui ressemble à... Comment ça s'appelle? Les trois filles, là.
Ah, je croyais que tu parlais des ok, vas-y.
Je suis plus Marvel, moi, donc parler des Teen Titans, c'est un peu comme les Young Avengers, quoi, en fait, tout simplement.
Ah, wow, on se calme, monsieur.
Les Teen Titans, c'est en gros la Justice League Junior. Voilà. C'est le comic book qui est dessiné par Dan Heap, qui est un formidable illustrateur, effectivement, avec un côté un petit peu cartoon, un petit peu pastel, un petit peu enfantin, mais qui fonctionne très très bien dans le cadre des Teen Titans. Et en gros, c'est les ados de la Justice League, donc c'est je sais plus, une sorte de Superboy, il y a Red Wing, non pas Red Wing, comment il s'appelle le petit Red Robin là, qui en fait partie.
Ah, c'est Red Wing.
À chaque fois ça change, selon les relaunchs et les périodes de décès, ça change un peu. Il y a Wonder Girl, ça change toujours un petit peu d'équipe.
Il y a pas le fils de Flash, hein, Kid Flash.
Ouais, voilà, il y a Kid Flash. Bon, en gros voilà, c'est une mini Justice League. On les réduit souvent justement à leur condition de mini Justice League, alors qu'en fait il y a des trucs très très bien, pas toujours évidemment, mais il y a quelques trucs très cool.
Je veux qu'on appelle Joe, on l'appelle papa maintenant.
Allez, voilà, il s'est énervé pour son papa. Je ne lis pas ça, je suis désolé.
Bah oui, personne lit ça. Allez,
bah non.
Et du coup,
moi je suis Capture Créature, monsieur. Et moi j'en suis fier.
C'est beau.
Du coup, le dessin animé oppose.
Si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
Voilà. Joe est super. Alors, la Justice League, tu veux nous présenter la Justice League
Moi je suis plus Marvel en fait. Bah c'est les Avengers version DC, quoi, avec Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern Man, qu'est-ce que tu veux, voilà.
Oh le troll. Du coup dans ce
dessin animé s'appelle Martin.
Flashman, ça défonce comme nom.
Du coup dans ce dessin animé uniquement par des Coréens, parce que voilà, aux États-Unis on sait pas faire grand chose en animation.
Étonnant.
Ou sinon il faut s'appeler Pixar.
Sinon fallait s'appeler Bruce Timm dans les années 80.
Voilà, merci monsieur, merci monsieur.
Alors, du coup on a bientôt Killing Joke qui va sortir.
Attends. Ça c'est dangereux. Ça c'est méga dangereux. Parce qu'il y a deux trois images qui m'ont fait peur.
Mais il y a Marc Camille dans le Joker.
Ouais, et ça suffit. Mais il y a deux trois trucs qui m'ont fait peur.
Et sinon, mettre Harley Quinn qui fait des vannes en plein milieu.
Elle est pas dans le quiz.
On revient donc à nos moutons. Dans les voix, on peut avoir par exemple John Bernthal.
C'est pas vrai.
Si, qui fait la voix de Trigon, donc l'antagoniste du film.
C'est
qui,
John
Bernthal? C'est le méchant dans Walking Dead là.
Ah,
le zombie numéro 323.
Voilà. Le gouverneur.
Non, mais celui qui sort avec la femme du héros pendant qu'il pense qu'elle est pas là.
Ah,
le Shane.
Voilà, c'est Shane.
Punisher, donc.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Je crois qu'il y avait mieux à dire. T'as pas dit Punisher, Mais il y avait mieux à dire en disant que c'est Punisher.
On a donc il fait votre Dragon, donc l'antagoniste. On a Jerry O'Connell, dont on se rappelle tous dans Sliders. Oui, qui fait la voix de Superman.
Ah, ça défonce.
Ouais, c'est dommage, tu l'as pas vu.
Non, je l'ai pas vu.
Rosario Dawson, qui joue également dans Daredevil, qui
dans Sin City.
On la baise.
Et
complètement.
Juste
trois fois.
Personne parle.
Qui fait la voix de Wonder Woman. Et on a Thaisa Farmiga qui joue la voix de Raven, qui est un peu un des personnages principaux de ce mini-film que personne ne connaît parce que personne ne regarde American Horror Story. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous résumer l'histoire? Personne peut nous résumer l'histoire?
Alors, moi, je le dis tout de suite. Alors, j'ai fait une Luxbox. Voilà, j'ai confondu les trucs et du coup je n'ai pas
regardé
le dessin
animé. T'as lu Howard the Duck, mais quel con, putain.
Et donc du coup je n'ai aucune idée de à quoi ressemble le film parce que je l'ai pas vu.
Alors,
du tout.
Du coup,
et je ferai des questions.
Il reste les deux Marvel Boys en fait pour résumer le film.
Que vous avez vu du coup.
Oui.
Voilà, c'est déjà ça.
Alors résumons le film.
Hors de votre portée.
Putain, mais Joe s'énerve, il va encore prendre le micro.
Alors pour résumer le film, en gros c'est Robin qui fait partie de la Justice League, apparemment,
ouais,
plus et d'un seul coup il rentre dans sa crise d'adolescence en fait, et il se rebelle un peu contre Batman, il prend des initiatives, bon il combat un méchant, mais Batman n'est pas trop content, alors il l'envoie
Alors voilà, je sens que c'était ta question, c'est Damian Wayne.
Ah, c'est Damian, d'accord.
Encore ouais.
Alors,
donc c'est un petit casse-couille.
Voilà, c'est ça.
Ah, clairement, on est d'accord.
Damian Wayne, c'est un casse-couille.
Du coup, il est envoyé en redressement un petit peu chez les Teen Titans.
Oh putain, mais merde.
Donc il arrive.
Ah ouais, c'est tellement ça.
Il arrive un peu bad boy, machin, il insulte tout le monde. Et puis il se bat un peu avec tout le monde, donc il s'aperçoit aussi qu'il a pas de pouvoir, donc évidemment, il se fait un peu étaler. Voilà, il soupçonne Raven, donc dans l'équipe des Teen Titans, de pas être super clean. Enfin bref, il se méfie un peu de tout le monde. Il est assez désagréable, ce Robin. Moi, j'ai pas.
Ah, c'est un connard.
En fait, c'est Damien Wayne, quoi. Ça suffit.
Tu le connaissais pas?
Non, je connaissais pas.
C'est le meilleur Robin.
Alors, Gaylord, tu peux présenter en deux mots Damien Wayne?
Eh ben, son grand-père, c'est Ra's al Ghul. Voilà. Donc,
tu aurais commencé par la mère, hein, déjà, ça aurait été.
Oui, donc sa mère, c'est Talia Al Ghul.
Al Ghul, pas
Al Ghul. Oh, j'en sais rien, moi.
Al Ghul.
Mais tu connais mieux que
moi. Il y a un méchant dans Homeland, quoi.
Mais non, c'est dans le Mordor, les Nazgûl.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Et en fait, c'est le dernier Robin, le fils de Batman, directement, voilà, le plus insupportable de tous, le plus fort, le plus hautain.
Voilà, qui a été entraîné dans l'art des assassins, et du coup, quand on essaie de le mettre dans la lumière, il veut pas, il est pas content, il aime pas, il travaille tout seul, c'est ce qu'on peut voir dans le début du film.
Il est tout le temps en train de se plaindre qu'on le prend pour un gosse.
Alors que c'est un gosse, il a 10 ans, quoi. Enfin,
ouais, mais voilà, il est plus compétent que n'importe lequel.
Oui, mais il se conduit tellement comme un petit con que.
Oui.
Il est génial.
Ouais, moi je le trouve super, ce perso.
Ce qui est d'autant plus fou quand tu le vois en dessin animé qu'il a une voix de gosse, quoi. Parce que quand tu lis le truc, t'as encore plus envie de lui foutre des baffes, parce que c'est.
Et donc, continuons, de quoi ça parle?
Alors, parallèlement à ça, il y a une entité. Alors, j'ai pas tous les détails, hein. Je vous avoue que je me suis endormi la première fois quand même. Il y a une entité qui prend le contrôle de la Justice League, donc notamment de Superman. Évidemment, parce que s'ils sont amenés à se fighter un peu tous les deux, il faut forcément qu'il y en ait un qui soit possédé. Et voilà.
Alors, j'allais un peu plus loin. Alors, en gros, voilà, c'est au bout d'un moment.
Tu l'as vu, Eric?
Oui, j'ai tout
vu. Par contre, si je peux me permettre, du coup, le titre Justice League versus Teen Titans est vraiment, vraiment, vraiment usurpé, quoi.
Alors,
il porte la confession.
Attends, il est tout aussi usurpé que celui de Batman versus Superman. Ils se battent 3 minutes.
Oh putain, le
spoil. Oui, mais on sent une certaine pression montée dans le film qu'on sent pas du tout dans le dessin.
Est-ce qu'ils envoient des éviers à la gueule?
Est-ce que leur maman s'appelle Martha?
Bah, du coup, oui, il y a deux personnages dont les parents s'appellent Martha dans ce film-là.
Batman et Superman.
La gueule d'Eric, si vous pouviez voir sa tête.
Vous ne pouvez pas parce que c'est de la radio. Bon, tout ça pour dire que, franchement, bon, ça n'a transcendé pas grand monde ici, soyons honnêtes.
Moi, je trouve ça absolument génial.
Alors,
mais en même temps, je sors de Batman vs Superman, donc j'ai revu toute mon échelle de valeur vers le bas.
On va se faire défoncer.
J'ai trouvé ça absolument fantastique. Les dialogues étaient ciselés à la perfection.
Franchement, quand tu vois.
J'ai adoré l'absence de mention à Martha dans tous les dialogues. C'était complètement fou.
Attends, franchement, quand tu vois sur le net Aggressive Comics et tout machin qui troll de ouf Batman Superman, je pense qu'on est les personnes qui l'ont mieux défendu du monde, quoi. Faut peut-être arrêter. Hein.
Bref, grâce à Adrien Larousse, notre avocat.
Monsieur Larousberg. Objection. Donc voilà, je vais résumer le film en 140 caractères. Donc le père de Raven est un démon qui s'appelle Trigon, qui est un adversaire classique des Teen Titans.
Démon de chez les démons.
Qu'on voit déjà dans les années 60 ou 70, enfin bref, il est très très ancien, et du coup c'est la première fois qu'on le voit dans ses dessins animés, en tout cas dans les versions modernes, et il essaie de récupérer donc sa fille Raven qui se bat dans ses démons intérieurs entre son père qui lui dit de la rejoindre pour créer un empire du mal, et ses amis les T-Titans qui sont sa nouvelle famille depuis plusieurs années.
L'origine story de Raven est quand même assez cool. Elle, c'est sa mère qui est une ado, genre qui fait tout pour apparemment, qui est une cervelée complète, décide à un moment de faire un espèce de rite occulte pour invoquer un démon, et puis elle y arrive en fait, elle invoque un démon, et puis en gros bah elle s'offre à ce démon.
En fait c'est une rôliste.
Et en fait elle s'offre à ce démon, et puis voilà, bébé Raven est là, et puis après finalement je sais pas comment ça se passe, vraiment retournement en situation, la mère et la fille partent dans Paradise Island, je sais pas quoi, City, ce que tu veux. Enfin, tout le monde est habillé en blanc, tout le monde va bien. Et puis à un moment, bah la petite décide d'invoquer son papa parce que ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu. Puis papa arrive.
Je pense qu'on n'a pas regardé le même film du tout.
Mais si, il y a ce passage-là. Mais bien sûr que si.
Mais non, il l'invoque pas. Le démon vient pour la
griser. Je me souviens pas de l'invocation. J'aimerais vraiment t'aider.
La prochaine fois que vous matez un film, évitez de le mater en morceaux et vous répartir les morceaux entre vous.
Je l'ai vu en trois fois.
Bref. Le démon tue son ancienne épouse, en tout cas la femme qui a mis au monde sa fille. Et du coup, ayant vu ça, Raven.
meilleur hors les bulles jamais.
Du coup, Raven essaye de se venger, enfin de venger la mère de la mort, pardon, de sa mère en essayant de
piéger son père.
Elle y parvient grâce à une invocation et elle pense que tout va bien quand une quinzaine d'années plus tard, enfin quelques années plus tard, le démon revient sur Terre pour se venger et il y va doucement en donc possédant de un plus grand nombre de membres de Justice League, donc Wonder Woman, puis Flash, puis Batman, et ainsi de suite. Non, Batman y arrive en se foutant un...
Batman, il se fout le sérum de Bane dans la cuisse, voilà. Et finalement, il arrive à en réchapper.
Et voilà, Batman, mon gars.
Bon, et... après, il passe le reste du film sur un fauteuil en train d'agoniser, mais Batman...
Le Batman parle Nolan, mon gars.
Mais il m'a pas l'air moins utile qu'au début du dessin animé, par exemple.
C'est vrai. C'est vrai.
Bref, pour conclure, c'est un film qui est vraiment pas cool.
Prends ça, Batman.
Le doublage, surtout celui de Raven, qui est vraiment le personnage principal le personnage autour duquel l'histoire tourne, est doublé d'une façon atroce. La nana n'avait aucune direction. Elle est en train de lire son texte en fait. Contrairement aux autres comédiens qui sont moins présents et qui ont plus de bouteilles, qui donnent un peu de dynamisme à une animation qui est quand même assez propre. Qu'on entend et qu'on voit tout le temps, elle casse tout. Donc même si l'histoire était déjà chiante à la base,
je trouve ça génial. Je maintiens.
Elle détruit encore plus tout ça. Et on peut dire que qu'est-ce qui m'avait choqué ? Ah oui, une scène atroce. Où on a Animal Boy, pardon, qui est un personnage inutile, qui a le pouvoir, enfin la capacité de se transformer en n'importe quel animal qu'il veut, qui lui est un champion de DDR, donc se bat contre Robin, donc Damien Wayne.
Un duel de DDR contre Robin, ouais.
Qui est
maintenant.
Il veut tout faire parfaitement, c'est le meilleur de tous, donc quand il voit faire, il veut se battre contre lui, la scène dure 5 minutes. Donc j'ai bien écouté, il y a une chanson coréenne, puis une chanson japonaise, et on les voit animer. Vous savez, c'est infini là à l'époque où il n'y avait pas vraiment de budget et on voyait les mêmes personnages faire exactement les mêmes mouvements dans le même sens. Oui. C'est ça pendant 5 minutes. Voilà.
Attends, qui gagne?
Et la musique est
atroce. C'est Robin. C'est Damien. Genre de 1 point ou bon, c'est ridicule. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment vraiment dispensable. Je ne le recommanderais même pas à des jeunes lecteurs, enfin des jeunes
niveau dessin animation, c'est vraiment si moche.
C'est génial. L'animation est vraiment très jolie.
On est proche du
c'est
truc
le doublage qui est horrible.
Oui, mais on est proche de ce qu'on avait vu sur Batman à la cour des hiboux, là.
Oui, non, on avait vu Nightwing. Red Hood.
Oui, mais il y avait aussi Oui, voilà, c'est ça. Oui, avec
qui mélangeait quelques histoires. Voilà. Oui, c'est la même boîte. Hein, à chaque fois, ils vont en Corée.
D'accord,
mais
visuellement, ça tue. Ah, oui, c'est très, juste très le doublage. Beau. Parce que le doublage à l'époque était bon aussi sur ça. Là, c'est vraiment mauvais.
Donc voilà, à ne pas recommander. Ça ne sort jamais. Personne ne l'a fait.
Oui, ce que tu. Je voulais juste. J'ai le temps de rebondir.
Oui, bien sûr.
Je me posais justement la question, est-ce que c'est pas juste pour les enfants en fait, ce dessin
animé? Non, c'est pour les personnes qui n'ont.
Les enfants ne sont pas des cons.
Ouais, alors, est-ce que c'est violent ou pas? C'est violent ou pas?
Non, les combats sont bien réalisés, mais il n'y a pas de sang.
Parce que sur le Redwood, c'était quand même assez violent,
mais oui, mais je pense que l'histoire était adulte à la base. Celui-ci, je pense qu'on peut le recommander à n'importe qui, mais surtout pas aux personnes connes. Grégo.
Et du coup, j'ai une scène cool que j'ai trouvée marrante. C'est à mon avis un gros clin d'œil aux animés, parce que je pense pas que d'ici fasse ça d'habitude. C'est quand ils enfilent leur costume avant de se battre, vous avez vu? C'est la seule scène qui m'a réveillé.
Je vais essayer de faire un gif et de le mettre sur le site parce que c'est atroce.
Ça m'a amusé.
Voilà, donc moi je sais pas comment décrire ça, mais voilà.
Ah bah c'est Sailor Moon.
Les rayons à l'arrière.
La chef des Teen Titans, ça, qui, tu sais, elle a la peau orange et.
Starfire,
voilà, qui se métamorphose, enfin, son costume arrive littéralement sur son corps comme Sailor Moon.
Starfire, elle a un côté Sailor Moon.
Mais alors là, ils ont vraiment repris les animations de Sailor Moon et tu vois,
les seins,
sur les bras.
Attends, parce que tu vas me dire qu'elle est habillée là. Normalement, Starfire, elle est pas vraiment habillée. Hein.
Non, elle a vraiment genre un ruban autour des seins, un ruban autour des
seins. Attendez.
À un moment,
il y a un plan où elle parle sur Skype avec Nightwing. Elle s'est suché les cheveux parce qu'elle sort de la douche et puis elle essaie de régler sa caméra, forcément, on voit ses boobs et Nightwing fait qui regarde un peu ailleurs mais avec un petit regard.
Mais c'est pour les enfants.
Voilà.
J'allais dire c'est Nightwing, mais non, il n'y a pas d'histoire, c'est Nightwing, c'est autre chose. Mais je crois qu'elle sortait avec un gars de la team Batman, c'est pour ça.
Avec Nightwing, ouais.
Starfire?
Il est confus.
Il est plus avec Barbara Gordon?
Mais je sais plus, ça dépend de la timeline.
Regarde le film, tu trouveras une idée.
Il les a tous ken.
Voilà, Nightwing, mon gars.
J'espère que vous avez aimé cette revue. C'est donc la fin de cette 44e émission. On va redire merci à nos chroniqueurs. Merci, Gaylor.
Bah oui, cool. Super.
En fait, vous trouvez tous à chaque émission une façon au plus horrible de me dire au revoir, c'est ça? C'est un combat.
Au revoir à tous.
Ok, au revoir.
Ok, Adrien nous écrit des phrases de com là, ça va
plus. Ouais, au revoir.
Au revoir Greg, go pour ta première participation, ça s'est bien passé?
Au revoir, j'espère que je reviendrai.
Tu reviendras bien sûr. Je ne demande pas ce qu'on fait dans la vie.
Je ferai un vote noir et vous le saurez la semaine prochaine.
Salaud quoi, le salaud.
Non parce que la réponse est d'absence 3.
J'ai absolument rien en ce moment.
T'es encore au chômage?
Non, je suis pas au chômage.
Ah tu travailles maintenant?
Ben depuis longtemps.
Ah bon?
Tu veux qu'on parle de ça maintenant?
Non. Je veux juste finir cette émission et parler de Civil War avec Daniel. Merci au public.
Ouais.
Ils sont pas aussi nombreux qu'on croit. Merci à Joe.
Ouais.
Voilà, il est tout seul.
Ils sont aussi nombreux qu'on croit.
Merci à moi. Ouais. Voilà. Nous, on se donne rendez-vous en deux semaines, début mai, le 4, si je ne me trompe pas. En attendant, qu'est-ce qui va se passer?
Les gens vont vivre leur vie.
Civil War qui va sortir dans deux jours. Voilà, si vous nous écoutez lundi 25.
On fait un petit teasing sur le sommaire de la prochaine émission ou pas?
Je l'ai quelque part, tu l'as?
On va parler de la saison 2 de Daredevil si je m'abuse.
C'est ça, on va voir les bulles, Daredevil. Ouais.
Moi, je vais faire un petit focus Invincible.
Oui.
Oh mais c'est cool ça.
Formidable BD.
Oui.
Dont on n'a jamais parlé depuis
c'est vrai.
Cette émission.
Comme des gros connards.
Il y en a plein comme ça.
Et de quoi? Qu'est-ce qu'on peut teaser encore? Je suis désolé, j'en trouve pas le conducteur, mais c'est pas grave.
L'émission 52 sur les New 52.
Ah oui,
c'est
en
loin,
août.
C'est loin, ça,
oui.
C'est loin, ça.
Oh le spoil. Voilà, merci à tous et à
j'ai
tous
bien
les
ou pas,
auditeurs. Rendez-vous donc dans deux semaines. Gros bisous, bye bye.
Ciao.